Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Marie.
Salut Marc.
Comment vas-tu? On est en période de confinement en ce moment, c'est un peu délicat. Toi, est-ce que tu es bien confinée et en sécurité?
Eh bien, je vais bien. Je suis bien confinée dans la petite maison de ma maman, avec mon frère, ma mère. On s'occupe comme on peut. C'est pas le meilleur moment de ma vie, mais c'est quand même un bon moment. Ça va. Je survis.
Ok. Et tu arrives quand même un peu à t'entraîner?
Non. Pas du tout. Pas du tout. Non, moi, je suis dans un sport où on a besoin de l'eau hein, et d'un télescope nautique pour pouvoir faire du sport. Donc là, c'est un peu compliqué. Dans la tête?
D'accord, ok, ouais. Un peu de visualisation peut-être,
voilà.
Un peu de visionnage de vidéo.
Je ne suis pas trop quelqu'un qui fait du workout ou du fitness ou quoi que ce soit pour m'entraîner, donc non. Je fais un peu de yoga de temps en temps, voilà. Ça m'occupe.
Ok.
La peinture aussi, c'est très physique. Et voilà, ce genre de trucs.
Non, mais c'est marrant parce que c'est un peu une période où j'ai l'impression que plein de gens en profitent pour faire des choses qu'ils n'ont pas le temps de faire d'habitude et se créer un peu des nouvelles routines. Donc, tu vois, c'est assez marrant, effectivement, d'entendre une sportive de haut niveau dire qu'elle fait de la peinture. Mais je sais pas si tu t'y es mis. Je sais pas si t'en faisais beaucoup avant le confinement ou si ça a été un déclencheur, mais.
En cas de besoin. Mais donc là, on a vraiment besoin. Du coup, j'aide ma mère à faire plein de trucs pour la maison et bah, du coup, ça m'occupe, ça me dépense et ça suffira pour le moment.
Ok, trop cool. Bah écoute, je te le disais. En plus, tu as écouté quelques épisodes, donc tu connais la tradition. La tradition du podcast, c'est de commencer par l'enfance, commencer un petit peu savoir qui était Marie quand elle était petite. Et du coup, la première question est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Eh ben, c'est marrant parce que j'ai passé un moment à réfléchir à ça. Et je sais pas trop parce que je crois que quand j'étais petite, j'étais pas une grande sportive. J'ai commencé à faire du patin à glace quand j'étais, je pense, au primaire ou quelque chose comme ça. Donc, je crois qu'on a déjà 10 ans, un peu plus peut-être. Donc, c'est quand même un peu tard. J'en ai fait pendant 11 ans. Mais c'était pas vraiment du sport pour moi. C'était vraiment le plaisir et tout. Donc, je l'ai jamais imaginé comme un sport vraiment. Ouais, je sais pas trop. Et du coup, j'en avais pas vraiment. Ou alors aller au bord du canal du Midi à Toulouse en vélo avec mes parents. Voilà, ce genre de truc. Mais. Je crois que ouais, quand j'étais petite, j'étais pas vraiment une sportive accomplie, impliquée. Donc non, j'ai fait ouais, voilà, on va dire ça.
Tu passes la question presque.
Ben, mais c'est trop. J'ai réfléchi un moment et je me suis dit ben non, en fait, j'ai pas quelque chose que je perçois comme un sport. Je pense que la première fois où j'ai vraiment vécu le sport, c'est quand je suis rentrée en STAPS et qu'on m'a dit « faut que tu cours pendant longtemps ». Et ça, c'était du sport et ça, c'était dur. Donc, toi, en STAPS, on est un peu plus vieux déjà.
Ok. Attends, mais du coup, tu disais que tu faisais du patinage. C'était du patinage artistique ou du patinage de vitesse? Ok,
du patinage artistique, ouais.
Bah, attends, c'est quand même un sacré sport.
C'est un sacré sport. Mais je pense que j'étais en loisir. Hein. Il n'y avait rien de très sérieux. J'ai fait quelques compétitions. J'en ai gagné quelques-unes quand j'étais gamine, mais c'était vraiment des choses... Le week-end, tu vois, on s'entraînait un peu de temps en temps, mais enfin moi, je le vis pas du tout comme un entraînement. Je le vis vraiment comme on allait se faire plaisir, on allait jouer avec les copines après l'école et c'était fun, quoi.
Ouais. Ok. Et tu penses que un peu cette aptitude sur la glace, je veux dire un peu être, c'est quand même un écosystème un peu incertain pour un être humain, tu vois, ça glisse et une autre appréhension de son environnement. Tu penses que c'est t'en as tiré des choses après pour ta pratique du wakeboard?
Ouais, c'est sûr et certain. C'est bête parce que ça a rien à voir l'un avec l'autre, mais ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui sont enfin que je peux retrouver un peu déjà un peu la vitesse, tu vois, tout ça, les chutes que je prends en wake à 30 km/h, finalement c'est du plastique, tout ça, ça peut faire mal, mais en patin à glace c'est pareil, on va assez vite et on est sur des lames qui sont très fines, donc si on fait une erreur, ouais. Bah, on se prend des tatanes sur la glace, c'est pas très accueillant non plus, quoi. Il y a beaucoup de choses avec, ben, on fait beaucoup de rotations en patin à glace. Et du coup, ouais. Au wake aussi. Et c'est vrai que, ben, quand j'ai commencé le wake, je me suis dit, bon, ben, en patin à glace, j'étais capable de faire 2 tours sur moi-même. Il faut qu'en wake, un jour, j'arrive à faire la même chose et je serai vraiment heureuse. Et du coup, c'est des choses que je savais retrouver parce que j'ai un peu cette, ouais, je sais à peu près me repérer sur certains axes grâce à ça, tu vois.
Mais si.
Puis après, j'ai réalisé après coup que finalement, le patin, c'était beaucoup, ben, on réalise des tricks finalement. Et en wake, c'est la même chose. On va faire des tricks aussi. Donc, tu vas passer un peu de temps à essayer de réaliser la figure et tout. Donc, c'est un peu le même délire.
Ouais, c'est un peu la même mentalité. Ouais, finalement, tu te bats un peu contre toi-même et t'essayes d'améliorer ton style, d'améliorer la qualité du geste. Ok. Mais c'est marrant parce que tu vois, on en parlait vraiment juste avant de commencer. Mais tu vois, le fait des sports un peu de ride et tout, c'est vrai qu'il y a une dimension. En fait, du corps vis-à-vis de son écosystème, vis-à-vis de son environnement, qui est vraiment différente, tu vois, pour les gens effectivement qui ont des pratiques dans lesquelles ils vont faire des figures ou quoi. Et du coup, bah effectivement, ça me fait penser à l'interview que j'avais fait avec Antoine Bizet qui fait du VTT, ou avec Benjamin Auffray, lui qui fait du plongeon à 10 mètres. Ouais. Effectivement, la notion de comment se positionne le corps dans son environnement, c'est un vrai sujet et je me demande comment ça se travaille, quoi, en fait, finalement, presque.
Bah écoute, pour moi, c'est juste j'en fais. Et au fur et à mesure, ouais. En fait, ce qui est très dur, c'est que je pense que tout ce qu'on va essayer de faire en termes de tricks, ça se passe très très vite. On n'a pas beaucoup de temps parce que à partir du moment où tu déclenches quelque chose et au moment où tu atterris, ben, il ne se passe pas grand-chose. Mais au fur et à mesure que tu vas le répéter, tu vas apprendre à gérer ce temps, en fait, qui va être de... Genre, mettons, dans la vie, ça dure 2 secondes. Et dans ta tête, la première fois, ça dure genre un demi-quart de seconde. Et au fur et à mesure du temps, de la pratique et des repères que tu prends, tu vas réussir à décomposer, à sentir certains mouvements que tu contrôles plus ou moins, ce que tu sens que ton corps est en harmonie avec la planche à ce moment-là ou bien avec l'eau. Et du coup, ben, tout ça, tu le décomposes à force de pratiquer, quoi. Mais j'ai pas de secret hein, pour ça. C'est juste que à force, tu comprends. Tu décomposes. C'est surtout ça, le mot. C'est que tu finis par décomposer ce que tu apprends.
Ok, ouais. Bah, finalement, ouais, j'ai un peu l'impression que les premières fois que tu fais, il y a un état de stress qui fait que le temps passe beaucoup plus vite.
Oui.
Et puis après, il y a la peur de la gamelle qui est là aussi. Parce que faut dire que, et après, peut-être avec le temps, effectivement, t'arrives à enregistrer beaucoup plus d'informations et le temps passe plus, le mouvement passe plus lentement, quoi. Ok, ok. Mais c'est hyper intéressant. Mais, on va revenir sur ce sujet-là. Mais je tenais quand même, parce que t'as dit une phrase tout à l'heure qui m'a interpellé. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on rebondisse aussi. Tu as fait STAPS, alors que, et la première fois, on t'a dit que c'était, enfin, qu'il fallait courir, ça t'a semblé dur, du coup.
Ouais, j'ai dit dur.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire STAPS?
J'en sais rien. Ça m'a attiré, comme ça. J'étais en terminale, en gestion, en STG. Et on est allé à InfoSup avec des amis, on n'avait pas vraiment le choix, mais j'étais avec des mecs qui faisaient pas mal de sport à ce moment-là. Et on a dit, vas-y, on va voir ça, ça nous intéresse et tout. Et puis, je suis arrivée devant le stand et j'étais là, mais waouh, en fait, j'aime vachement ça, ça me tente. J'en ai parlé à mon prof de sport de l'époque, merci d'ailleurs à ce prof de sport. Je lui ai dit, vous croyez que je serais capable de faire ça? Et il m'a dit, Marie, grave. Et là, j'étais là, bon, bah, ok. Et c'est mon prof de contact qui était là, non, mais tu vas pas faire ça, tu crois, tu serais pas mieux en gestion et tout. J'étais là, non, je crois que je serais mieux en ça. Et franchement, merci à eux parce que je suis trop contente d'avoir fait ça. Et oui, effectivement, courir, c'est pas mon fort, hein. Vraiment, tout ce qui est fitness, tout ce qui est préparation du physique, etc., ça n'a jamais été mon dada. Par contre, tu peux me mettre sur une planche de surf et me laisser ramer pendant 4 heures d'affilée, je m'en rendrai pas compte, tu vois.
Ouais.
C'est un peu. Paradoxal, quoi. Et puis pareil, genre, je fais beaucoup d'escalade aussi l'hiver quand on a plus de wake ou quoi. Et pareil, je peux grimper pendant longtemps, avoir mal partout, mais derrière, je fais pas de prépa, quoi.
Ok. Bah, c'est peut-être le côté un peu, t'as besoin d'un côté un peu ludique, sûrement.
Ouais, exactement. C'est ce que je me suis rendu compte à force. C'est ça.
Ok. Et du coup, c'est durant STAPS que t'as découvert le wakeboard?
Bah, en parallèle, en fait, quand on rentre à la fac, on a dans les 18 ans à peu près, j'ai commencé, en fait, à travailler dans un parc de loisirs à côté d'Albi. Et comme saisonnière, en fait, pour faire un peu d'argent l'été pour, voilà, travailler. Et ils avaient un téléski nautique dans leurs activités du parc de loisirs. Et du coup, ben, sur nos heures de repos et nos week-ends, et ben, on a un petit peu essayé le truc, par hasard. Je dis, oh, c'est sympa, ça, j'aime bien. Et au début, j'ai accroché, mais sans plus, quoi. C'était vraiment sur mon temps libre, de temps en temps. J'allais mouiller les cheveux. J'ai mis, je crois, un mois à faire le tour du lac. Enfin, c'était vraiment un truc pour rigoler, quoi. Il y avait rien de très sérieux. Et puis, en fait, je sais pas, 2 ans plus tard, ils ont installé un module sur le parc qu'ils avaient construit avec la chaume, mais un module qui était accessible pour les gens qui débutaient, en fait. Parce qu'il y avait déjà certains trucs, mais c'était un peu plus difficile. Ouais. Et là, en fait, on m'a dit, ouais, Marie, tu devrais acheter une planche quand même. Ça t'irait bien et tout. Essaye. Et j'ai écouté les conseils et j'ai dit, bon, bah, écoutez, je crois que je vais m'acheter une planche. J'avais les pieds tout petits et tous les gens qui voulaient m'en prêter, ça m'allait trop grand et c'était un peu la merde. Achète-toi une board. Donc, du coup, j'ai acheté et puis dès que j'ai eu mon matos et que j'ai pu réaliser ce module, je me suis dit, waouh, en fait, trop bien. J'adore. Et puis là, j'ai plus trop arrêté, quoi. C'était il y a 8 ans.
Ok. Donc quoi, ça a été le coup de foudre à partir du moment où t'as eu cette board. C'était quoi d'ailleurs comme board, par curiosité?
Alors c'était une très vieille board que j'avais payée pas cher parce que c'était la première et que je pensais que j'allais jamais en acheter une autre. C'était une G-Star. Sur internet, elle était un peu foncée noire et quand elle arrive dans mes mains, elle avait un vernis paillette. Quand je l'ai vue, j'étais là, waouh, paillette là, on va fort. Et elle était dure, enfin c'était encore les boards qui étaient en mousse et qui avaient pas de flex, rien du tout.
Ouais.
Et ah ouais, c'était une board en 127 cm, aujourd'hui je ride en 146.
Ouais.
Donc c'était vraiment le début, quoi. C'était la petite planche qui est arrivée par hasard. Après j'ai vite changé quand même, Mais bon, j'ai réussi à apprendre plein de choses avec cette board déjà. C'est pas la board qui fait le rider, on dit souvent.
Bah ouais, c'est clair. Mais et du coup, ouais, tu reçois cette board, tu commences à accrocher. Je me rends pas du tout compte, tu vois, quand t'es une jeune fille et que tu fais du wakeboard, est-ce que t'as des rôles modèles, est-ce qu'il y a des compétitions? Comment est-ce que se fait un peu le cheminement vers le haut niveau?
Ben, je sais pas trop s'il y a un cheminement plus ou moins, on va dire, que quelqu'un peut prendre et aller foncer comme ça. Je sais pas, moi ça s'est passé un peu par chance, bon moment, les bonnes personnes autour de moi et la bonne vibe qui m'a fait accrocher. En fait, le parc où j'ai commencé, ils faisaient des petites compètes en fin d'année, histoire de réunir les locaux et de se marrer une bonne journée. Et bon, j'avais participé forcément puisque j'étais là. Et ça s'était bien passé. Et puis après, on m'a dit, oh, tu devrais aller à celle-là, il y en a une à Barcarès et tout, ça va être bien, viens. Du coup, ben, l'été d'après, j'ai fait ça. Et en fait, ben, tout le monde m'a tout le temps proposé, oh, il y a une compète là, tu devrais venir et tout. Et j'ai eu beaucoup de contacts grâce à ça. Et de là, j'ai fini par participer à des trucs en France, puis après en Europe, puis après dans le monde. Et en fait, c'est vraiment, je suis tombée là par hasard, quoi. J'ai été intéressée, j'ai vu la lumière, j'ai dit, bonjour, c'est cool ici. Et à chaque fois, j'ai eu des super expériences, j'ai rencontré des gens extraordinaires et qui m'ont emmené petit à petit jusqu'à là où j'en suis là, quoi.
Ok, d'accord, ouais. Donc ça se fait un petit peu sur le fil des rencontres, quoi, j'ai l'impression.
Enfin, pour moi, oui. Après, y a d'autres petites nanas qui font ça plutôt en équipe de France, fédérale, etc. et qui ont un autre parcours, hein, que je connais pas du tout, mais qui ont peut-être pas fait les choses comme moi, un peu à la sauvette comme ça.
Ouais. Et t'as jamais eu envie de les rejoindre?
Et bien alors, pas vraiment. C'est un peu bizarre. En fait, si tu veux, le wake, il y a deux, on va dire, façons de faire qui sont assez distinctes. Il y a plein de riders qui font les deux, mais il y a beaucoup de riders qui font soit l'un, soit l'autre aussi. Et en fait, on distingue ça avec, le fédéral fait beaucoup de air tricks. Donc c'est des figures en fait où on saute dans les airs grâce à la tension du câble et jib. Donc là c'est tout ce qui est module et tout ce qui va être avec le plastique qui flotte sur l'eau, quoi. Et c'est vrai que il faut être très polyvalent pour faire des compétitions en fédé, parce qu'il faut être bon en air tricks, il faut être bon en jib et il faut être bon en kicker aussi. Du coup, si t'es un rider qui est vraiment polyvalent, tu vas vraiment t'amuser sur les compètes fédérales. Par contre, si tu l'es pas, ben c'est pas très fun, quoi. Et moi, c'est vrai que tout ce qui est air tricks et kicker, ça a jamais été mon grand dada. Et je me suis beaucoup éclatée dans le jib, donc tout ce qui est module, etc. Et il y a beaucoup de compétitions qui sont organisées plutôt sur un circuit privé, je dirais, qui vont en fait créer des setups pour l'occasion, ou alors mixer les modules d'un parc pour faire quelque chose de nouveau et tout. Et j'avoue que moi, j'ai plutôt un penchant pour ça. Et il se trouve que c'est jamais des choses qui sont organisées par la fédé, en fait. Donc, ça s'est fait comme ça, en fait. C'était pas vraiment un choix de dire, bon, ben, je fais pas de compète fédérale. Mais c'est juste que ceux qui m'attirent, c'était plutôt les événements un peu plus privés, un peu plus corps, j'ai envie de dire, du sport, quoi. Comme le FIS, par exemple, les gens qui sont déjà allés à Montpellier ont sûrement vu le parc qu'il y a sur le Lez. C'est quelque chose qui est pas vraiment fédéral, quoi.
Ok. Et mais du coup, ouais, du coup, il y a une équipe de France en wakeboard, ils sont plutôt, du coup, comme tu le disais, assez polyvalents, quoi.
Oui. Après, il y en a qui sont excellents dans toutes les disciplines et qui franchement, assurent dans tout, quoi. Mais c'est que vu qu'ils sont bons, c'est bien pour eux de faire de la compétition en fédéral.
Ok, d'accord. Et ça rapporte quoi finalement de faire de la compétition en fédéral plutôt qu'en privé?
C'est une bonne question. Je pense que, bon, après, t'as toujours, ça fait plaisir d'avoir les titres, etc. Je pense que du fait de faire partie de l'équipe de France, tu dois avoir du soutien de la région, du pays, tout ça. Mais j'en sais pas plus. Je t'avoue que je me suis jamais vraiment intéressée plus que ça. Mais je pense que ça doit fonctionner comme ça. Il doit avoir un soutien quand même.
Ouais. Et toi, t'avais des rôles modèles quand tu commençais? Est-ce qu'il y avait des personnalités qui t'inspiraient dans le wakeboard?
Évidemment, mais en général, j'ai tendance à beaucoup aimer regarder et être inspirée par les gens qui sont autour de moi. Ça veut dire que le jour où j'ai commencé le WEC, en fait, les gars qui raidaient là où j'étais impressionnée, et c'est eux qui m'ont donné envie d'accrocher avec la discipline. Et pareil, aujourd'hui, quoi, c'est pas quelqu'un que j'ai jamais vu qui va me faire rêver, c'est vraiment quelqu'un que j'ai vu se battre pour un tricks ou rider avec une aisance qu'il fait en quelque chose de minuscule, mais qui paraît d'être magnifique alors que tu sais le faire aussi, et c'est beaucoup mieux chez lui. Et c'est vraiment ces riders qui ont quelque chose de différent que j'aime beaucoup, moi. Je pourrais donner quelques noms si tu veux, mais c'est pas très représentatif, quoi. C'est des noms par-ci par-là qui m'ont marqué un peu juste parce que c'était différent, quoi.
Ok, et tu as eu l'occasion de rencontrer ces personnes-là et de t'inspirer d'eux ou de rider avec eux?
Ouais. Ben, on a de la chance, le WEC, c'est quand même un milieu qui est encore très jeune, petit et assez restreint du fait qu'on est obligé de pratiquer sur un câble pour pouvoir en faire. Donc, on est souvent tous au même endroit finalement. Et, ouais. Et oui, c'est vrai qu'en fait, très vite, on rencontre les gens qu'on a vus en grand quand on était un peu plus débutant. Et rider avec eux, ouais, c'est vrai que ça m'arrivait beaucoup encore et toujours.
Ok. Ouais, donc c'est toujours, c'est presque une bande de copains, j'imagine, ou en tout cas, ça devient des gens avec qui tu échanges régulièrement, quoi.
C'est ça. C'est ça, et puis finalement, en l'espace de quelques années, ben, les gens que tu regardes avec des paillettes dans les yeux, ça devient tes copains de ride, quoi. Après, ce qui est un peu difficile pour nous, et surtout chez les filles, c'est qu'on n'est pas nombreuses. Et du coup, ben, mes copines de ride, il y en a une qui habite en Russie, l'autre elle est en Amérique, l'autre elle est en Allemagne, l'autre elle est en Hollande. Du coup, on se voit pas souvent, quoi. Mais c'est pour ça qu'on aime bien les compètes, c'est que c'est une bonne raison de nous réunir et de rider ensemble, quoi.
Ok, ouais, d'accord. Donc, vous le voyez plus comme un regroupement entre amis plutôt qu'une compétition, j'ai l'impression.
Ben, quand même, oui, vraiment. Mais après, il y en a certains qui ont l'esprit plus compétitif que d'autres, évidemment. Mais à la base, on est vraiment contente de se retrouver et de rider ensemble, quoi, ça, c'est sûr.
Ok. Mais c'est marrant, ouais, ça me fait penser à une autre interview que j'avais avec Mathieu Péché, qui lui fait du canoë biplace. Et il me disait, on est tellement peu à travers le monde à le faire que quand on a des compétitions internationales, on est content de se voir et on fait presque autant la fête qu'on fait du sport.
Ah, mais ça, ça fait aucun doute.
Ouais. Et du coup, comment c'est structuré au niveau sur la scène mondiale le wakeboard? Excuse-moi, enfin je te pose des questions un peu généralistes, mais je suis un petit peu curieux de savoir est-ce que il y a un circuit de Coupe du Monde, est-ce que c'est majoritairement des compétitions privées, est-ce que je sais pas, il y a une ligue, comment est-ce que ça s'articule?
Alors du côté fédéral, je vais pas être super bonne pour te détailler parce que comme je suis pas trop impliquée, j'avoue que je vais pas dire des bêtises, c'est trop dommage. Ouais. Mais je sais qu'il y a, ben, je sais qu'on a la Ligue Occitanie là à Toulouse. Il y a certaines personnes qui sont hyper impliquées pour faire des petits championnats, des choses qui font un peu briller les riders de la région. Après, il y a tout un circuit Coupe du Monde et Championnat du Monde. Ça veut dire que, en plus, il y a deux fédérations dans le WEC. C'est un peu, je vais pas aller plus loin parce que je peur de tout confondre. Je connais pas assez.
Ouais, d'accord.
Et du côté. Je me suis perdue dans ce que je voulais dire, du coup.
Tu disais qu'il y avait deux fédérations au niveau mondial, quoi. Et...
Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, on a une grosse scène sur les événements privés qui se développe.
Ok, et c'est aujourd'hui, la scène privée, elle est plus exposée, peut-être, médiatiquement ou...
Je crois que oui, hein. Je crois que oui, finalement, parce que ça vient vraiment des câbles et des endroits où les gens ont l'habitude d'être, en fait. Donc il y a tout un engouement des gens qui sont sur le spot, qui vont faire partager l'événement et donner envie de venir, tout ça. Non, ouais, pour moi les événements privés, c'est je sais pas si c'est la bonne façon de l'appeler, mais en quelque sorte si, hein, finalement. Et ces gens-là, ils font vraiment, enfin ils donnent tout pour faire leur event et le faire bien et faire vibrer un peu. Enfin c'est que des bons moments, quoi, à chaque fois. C'est des setups qui sont vraiment construits pour l'événement et parfois, ça arrive même qu'on l'a pour l'event et le lendemain, il n'existe plus, quoi.
Ouais. Ah, donc, vous êtes privilégié finalement et vous avez le droit à avoir des super wake park faits juste pour vous, quoi.
C'est ça.
Ok, trop cool. Mais du coup, ouais, j'imagine que tu voyages un petit peu à travers le monde. On avait un petit peu discuté hors antenne de la Thaïlande. C'est quoi les gros spots, les grosses on va dire les meilleurs endroits pour faire du wake quand on commence à avoir un petit niveau?
Ben, étrangement, on est bien lotis en France. Hein. on a beaucoup, beaucoup de téléskis en France. On en a presque une centaine maintenant. Après, il y a les grands câbles, les petits, les bifoulis aussi. C'est, moi, je comprends. Pour moi, c'est pareil, les deux sont bien. Et après, en Europe, on a beaucoup, beaucoup de câbles en Allemagne qui sont extraordinaires. Et après, bon, bah, disons que, mettons, c'est l'hiver en Europe, il n'y a plus trop d'endroits pour rider puisque, ben, il fait froid, tout le monde a fermé, c'est un peu le moment où tu te dis, bon, ben, ma vie n'a plus aucun sens. Et, tu achètes ton premier billet d'avion. Et en fait, à ce moment-là, tu regardes beaucoup la Thaïlande et les Philippines parce que c'est là où on a des spots qui sont mythiques. Celui de Bangkok dont on avait parlé, Thai Wake Park, c'est le premier où je suis allée à l'étranger. Et vraiment, t'arrives là-bas, c'est un autre monde, quoi, c'est extraordinaire. Et les Philippines, ouais, c'est le deuxième endroit où je suis allée. Et je pense que c'est mon grand coup de cœur. J'aime beaucoup ce cap. Je me suis beaucoup, j'ai beaucoup évolué là-bas, quoi. Donc, j'aime bien. En général, on part, enfin, quand tu pars au bout du monde, tu pars pas pour une semaine, quoi. C'est un peu court, sinon, avec le jack-là, tout ça. Donc, le mieux, c'est de partir pour 3 semaines, 1 mois minimum. Il y en a même qui restent genre 3 mois, 4 mois pour l'hiver. Parce que, la vie est pas très chère en Asie. Et que, en fait, tu vas un peu pour ça là-bas, tu restes sur le cap, tu restes 2 mois, tu progresses beaucoup. Et tu rentres avec beaucoup de souvenirs. Donc, du coup, les deux câbles principaux, c'est vraiment Thaïlande et Philippines. Après, il y a quand même, enfin, je pense que c'est un sport qui se développe énormément en ce moment.
Et ouais, c'est vrai. Ouais.
Il y en a de plus en plus, par exemple, en Argentine, au Brésil, en Amérique évidemment aussi. Mais c'est beaucoup plus grand, donc ils sont un peu éparpillés.
Okay.
Qu'est-ce que j'aurais d'autre en tête? En Turquie, il y en a un aussi où les gens vont beaucoup l'hiver. Moi, j'ai encore jamais eu l'occasion d'y aller.
Ok.
Mais voilà. En gros, c'est les destinations principales.
Ah, c'est cool. En tout cas, c'est sympa, tu vois, ça fait voyager. Ouais. Ouais, franchement, c'est trop, trop bien, quoi. C'est pour le coup, effectivement, tu vois, quand je suis allé faire du WEC en Thaïlande, c'est vrai qu'il y a un espèce de, comment dire, de, déjà, il y a une atmosphère assez conviviale. Les gens se disent bonjour, il y a une sorte de respect, et on sent que l'ambiance, elle est chill, quoi. T'as musique à fond, ça passe du reggae, et puis juste après, ça va être peut-être plutôt du hard rock, et après de la techno. Il y a une bonne ambiance et tout. Les gens sont assez, sont vraiment sympas, je trouve. Et je comprends que tu sois tombé addict et que t'aies envie d'y rester plusieurs mois, c'est clair. Mais du coup, avec les compétitions aujourd'hui, tu arrives à en vivre?
En vivre, c'est un grand, grand mot, hein. Mais j'arrive à en survivre, je sais pas. Donc, je suis pas quelqu'un qui dépense énormément d'argent, donc tout ce que je gagne en général, ça m'aide à faire acheminer ma saison, quoi. Mais non, je travaille aussi à côté, sinon c'est compliqué.
Ok.
Mais après, sur une bonne saison comme celle que j'ai fait l'année dernière, j'étais vraiment contente, hein. Surprenant. Donc avec l'argent que j'ai gagné, j'ai pu quand même faire beaucoup plus de choses que ce que j'avais prévu à la base.
Ok, d'accord.
Après, là, 2020, je pense que ça va être l'inverse, du coup, vu que tous nos événements sont annulés. Ça va être un peu
difficile. Ouais, ça va être compliqué pour tout le monde, ouais. Et du coup, c'est des prize money sur les compètes, ou c'est plutôt les sponsors qui tournent autour de vous? J'imagine que ça doit être beaucoup dépendre des marques un peu qui veulent avoir un petit peu plus de notoriété.
Non, ça va dépendre des riders, en fait, parce que finalement, pour ma part, j'ai des sponsors qui me soutiennent, j'ai certaines marques qui me donnent des petits budgets, et c'est très sympa parce que c'est déjà un premier pas, mais c'est genre vraiment, c'est minuscule, quoi, comparé à ce que je dois dépenser pour faire tout ce que j'ai envie de faire dans Wake. Et après, c'est vrai que les prize money, pour moi, c'est ce qui m'aide le plus à continuer ce que j'ai envie. Mais il y a d'autres riders qui ont des bons contrats avec des marques qui sont très présentes et qui ont des salaires au mois ou des travel budgets qui vont survivre pour toute l'année, quoi. Mais après, étant une fille dans un sport un peu plus en arrière, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas hyper encore connu, le Wake, donc c'est timide pour l'instant. Mais je suis déjà très contente d'avoir ce que j'ai parce qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir, donc une belle évolution qui est possible à voir pour les suivantes, tu vois.
non, c'est sûr, moi j'ai l'impression que c'est un sport de plus en plus, enfin, qui est sur une bonne voie, tu vois, la démocratisation et tout. Mais comme tu l'as dit, il y a de plus en plus de lignes en France. D'ailleurs, tu l'expliques comment, toi, en France, en le fait qu'il y ait autant d'endroits où tu puisses pratiquer? C'est peut-être plus ça vient peut-être plus du ski nautique.
Eh ben, je me suis posé la même question que toi. Je sais pas pourquoi on en a autant. Je sais pas pourquoi les gens se sont pris d'amour pour ça et en fait partout. Mais tant mieux pour nous, hein. Mais c'est vrai que ça se démocratise énormément. Et je pense que il y a eu un truc qui est arrivé il y a quelques années. C'est les petits câbles. On les appelle les dipoulis parce que c'est juste un aller-retour, en fait. Donc, je sais pas si tu connais ça, mais les grands câbles dont tu m'as parlé, c'est vraiment, t'as le câble qui tourne, les accrocheurs s'arrêtent pas, ça tourne à 30 km/h et toi, tu dois t'accrocher sur le câble. Alors qu'un dipoulis, c'est quelque chose, en fait, où t'as un accrocheur, une corde et un rider. Ce qui fait que tu peux avoir un petit qui a 4 ans ou quelqu'un comme moi qui en fait tous les jours et ça changera rien. Tu pourras vraiment faire ce que tu veux avec le rider. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir l'amener sur l'eau tout doucement, et peu importe l'âge, peu importe ses qualités physiques, son passé dans les sports de board ou quoi que ce soit, en fait, tu as tous les atouts en main pour lui faire aimer le wake, ce qui fait que ça rend le sport hyper accessible pour tout le monde. Et ouais, tu vas vraiment adapter la vitesse, donner les conseils en 1-1 et tout, donc tout le monde s'est dit, mais en fait, le wake, ça peut être très très facile, quoi. Et ouais, c'est le cas, enfin, pour avoir travaillé en bipool pendant quelques étés, tu fais démarrer tout le monde, même des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, c'est sûr qu'ils sont sur l'eau au bout de 15 minutes, quoi. Et c'est génial.
Ouais, c'est trop bien.
Donc du coup, je pense que les gens se sont rendus compte que une fois que tu t'y mets à fond, le wake, ça reste quand même un sport un peu extrême, d'action, ce que tu veux. Mais le jour où tu commences, ça peut être vraiment accessible pour tout le monde, quoi. Si dans les bonnes conditions, c'est sûr. Donc peut-être que ça a aidé à développer le sport aussi rapidement, parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, il n'y en avait pas autant, mais en l'espace de 10 ans plus tard, il y en a partout, quoi. C'est hallucinant.
Ouais. Non, c'est clair, ça fleurit un peu partout, et bah, pour le plaisir des riders et des pratiquants, on ne va pas s'en plaindre. Moi, je suis très content de pouvoir en faire en région parisienne et d'avoir l'occasion d'en faire. Donc. Pardon ?
Et à Paris, il y en a beaucoup. Enfin, moi, à Toulouse, ouais, j'en ai 6 autour de moi à moins d'une heure de route, quoi.
Ouais, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Bah, c'est, je veux dire, ça pourrait être, si tu habitais, je sais pas, peut-être en Russie ou en Pologne, peut-être que ça serait moins évident. Donc,
en Russie, ils en ont quelques-uns qui sont très bien, parce que je suis allée là-bas pour faire une compète.
Ok.
En Pologne, il y a aussi des câbles, et j'ai rencontré des Polonais les deux dernières années qui ont des super câbles aussi. En Lituanie aussi, il y en a énormément. Donc finalement, je te dis, il y en a partout.
Il y en a partout, c'est l'invasion. L'invasion des wakeboarders. Trop cool. Et tu as dit que tu avais un petit boulot à côté. T'as le temps ou c'est qu'est-ce que tu fais à côté?
Alors, je travaille dans une chocolaterie.
Ok.
C'est le boulot rêve pour moi. Bah oui, déjà pour le chocolat, parce que j'en mange énormément tous les jours. C'est ma diète à moi. non, mais c'est surtout qu'en fait, ils marchent par saison aussi. Et leur saison, eux, c'est Noël, donc juste après la mienne. Et Pâques, qui est juste avant que je reprenne. Ce qui fait que à chaque fois que j'ai eu vraiment besoin de travailler, ben, je peux m'adapter. Enfin, eux me connaissent et ils peuvent m'embaucher quand ils ont besoin. Ils savent que je ferai le taf. Mais c'est surtout que ça correspond trop bien à ma saison, quoi. Donc en général, ouais, je vais travailler novembre, décembre, et puis après ce sera mars, avril, mai, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai déjà fait plus, mais en général, c'est un peu la balance que j'arrive à trouver pour avoir assez d'argent pour faire la saison et me réapprévisionner quand j'ai terminé, quoi.
Ok, d'accord. Bon, bah c'est cool. Enfin, c'est vachement intéressant de voir aussi un peu l'envers du décor, tu vois, et de savoir un peu ce que doivent affronter un peu les, enfin, ce que doivent faire les sportifs pour faire leur passion. Des fois, c'est pas toujours aussi facile pour tous, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, tu vois, je voulais te poser une question, mais alors bon, c'est marrant parce que toi tu confirmes un peu le préjugé, mais tu vois, j'entends beaucoup parler quand je discute un peu autour de moi des sports de glisse ou des sports un peu comment on pourrait dire lifestyle ou freestyle, je sais pas trop. Il y a toujours un peu le sentiment de se dire que les athlètes sont un peu moins professionnels ou qu'ils se préparent un peu moins. Alors toi c'est trop marrant, enfin c'est hyper intéressant, c'est que tu confirmes un peu ça, tu dis que t'aimes pas trop la prépa physique et que c'est pas trop et tu fais pas trop forcément de travail autour de ça. Mais est-ce que tu sens que c'est quand même un milieu qui s'est professionnalisé ces dernières années?
Oui, complètement. Complètement. Parce que finalement, moi je suis comme ça, mais ça reste que pour moi finalement. Il y a plein de gens qui sont pas comme moi et ouais, qui s'entraînent et qui ont vraiment notre rapport à la pratique, quoi. Mais j'ai remarqué souvent que les gens qui avaient tous cette préparation physique et toute cette organisation sont plus les gens qui ont déjà par exemple des blessures. Et je suis désolée, mais je pense que ça te prive de ce que t'aimes le plus en l'espace de une seconde. Tu vois, tu peux perdre tout ce qui t'anime en juste une blessure. Et ouais, et du coup tu apprends en fait à organiser ta pratique avec de la prépa physique, de la récup, tout ce qui va être bon pour ta blessure, pour revenir à ce que tu faisais avant que ça arrive, quoi. Et donc, c'est vrai que ces gens-là, pour en avoir autour de moi, après, comme je ne l'ai encore jamais vécu, je touche du bois en ce moment même, je ne veux pas te dire, mais je pense que ces personnes-là ont plus, tu vois, envie de prendre soin de leur corps, de ce qui peut ou ne pas réarriver. Et du coup, ben voilà, ils ont une façon différente de faire, peut-être.
Ouais, ok, ouais, je vois. Mais c'est marrant que ce que tu dis, j'avais jamais pensé à ça. Effectivement, le rapport à la blessure, et le fait que, bah forcément, ouais, quand on perd son outil de travail et qui est son propre corps, en fait, finalement, bah ça engendre pas mal de stress et de peur, j'imagine. Mais d'ailleurs, ouais, dans le WEC, c'est quoi les blessures fréquentes et finalement, qu'est-ce qui peut vous arriver? Parce qu'il y a des chutes qui peuvent être assez violentes quand même, j'ai l'impression.
De manière générale, les chutes sont violentes, oui, effectivement. Non, il peut y avoir des chutes, on s'en fiche, mais en fait, il y a un truc tout bête, c'est que nos pieds sont attachés à la planche. Et en général, on serre bien nos chausses parce qu'on a besoin de ce contrôle. Donc, si on tombe mal ou que la planche arrive dans l'eau et que ton corps il est encore en train de tourner ou quoi que ce soit, ben, c'est les genoux qui prennent directement. Donc, il y a énormément de ligaments croisés. Il y a des ménisques qui cèdent aussi sous l'impact, beaucoup de problèmes de genoux, d'entorse, etc. Après, on est tracté par un cadre qui va vite quand même et on arrive à tourner autour en faisant des passages de palo derrière nous et tout, donc les épaules, ça ramasse aussi.
J'ai l'impression que les épaules...
J'aurais tendance à dire que c'est les chevilles, mais ce serait vraiment un dernier, quoi.
Ok, ouais, donc il y a quand même...
Pas de chance, quoi. Mais les genoux, première position, quoi.
Ok. Ouais, bah c'est un peu tous les sports, beaucoup de sports de glisse hein, qui sont...
On a beaucoup d'impact finalement parce qu'on est sur quelque chose qui va à 30 km/h, on prend les kickers, tout ça, on prend de la hauteur, on prend de la vitesse, mais on atterrit sur du plat. Et mine de rien, l'eau, c'est quand même hyper dur à cette vitesse-là et on a une board qui a une grosse surface, donc on traverse pas l'eau, on n'a pas d'amorti, quoi. Donc c'est vraiment les genoux, le dos qui prend en premier. Ah oui, le dos aussi.
Le dos, ouais.
On prend bien dans le dos aussi.
Bah, moi j'étais surpris.
On atterrit en pente, quoi, par exemple.
Ouais, je vois, ouais. Mais moi j'étais surpris de voir les wakeboarders, le dos qu'ils avaient, quoi. C'était des dos, c'est encore plus musclé qu'un dos de nageur. J'ai jamais vu des dos aussi costauds que des dos de wakeboarders, quoi.
Une fois j'étais en train d'attendre pour la sécurité dans un aéroport et j'ai dû enlever ma veste parce que, pour faire le contrôle. Le mec devant moi m'a regardé et il m'a dit, mais. Toi, tu dois faire du judo, non ? Waouh ! Non, c'est pas ça, raté ! Mais oui, c'est vrai qu'on a on a des dos un peu musclés. Et d'ailleurs, je pense que tous les gens qui ont déjà fait du wake pour la première fois et qui ont un peu réussi à partir ou pas trop et qui ont pris quelques gamelles, la plupart du temps, on a tous vécu ça, c'est « Waouh ! Je savais pas que j'avais des muscles à cet endroit, en fait. »
Ouais, exactement.
Tourner et tu sens vraiment que tu travailles beaucoup les muscles profonds et le dos, beaucoup, quoi.
Ouais, c'est clair. Bah ouais, tout ce qui est muscles profonds et c'est clair qu'on les travaille beaucoup moins, on va dire, au quotidien et c'est pas forcément ce qu'on travaille le plus. Et puis quand on fait du ski, finalement, les muscles profonds du haut du corps, on les travaille pas du tout. Donc, effectivement, t'as bien raison. Les premières fois, ça fait des bonnes courbatures. ça dure bien, bien longtemps. Ouais, ça donne bien longtemps.
Mais bon. Étrangement, la première fois de ta vie, mais la première fois de chaque saison aussi. Enfin, tu t'arrêtes 2 semaines. Le jour où tu vas reprendre, tu vas les sentir tout pareil que la première fois, quoi. Bon, tu vois, mais enfin là, par exemple, j'ai arrêté pendant un mois cet hiver, mi-février, mi-mars. Le premier jour du mois de février où je suis allée dans l'eau, je pouvais plus bouger le lendemain, quoi. Et là, on est rentré, confinement, ça fait un mois et demi que j'ai pas bougé. Quand je vais avoir la chance de reprendre, je pourrai plus bouger le lendemain non plus.
Donc toi, le 12 mai, on peut t'envoyer un petit message sur Instagram. Tu auras. on peut te souhaiter déjà d'avoir de bonnes courbatures.
Ouais. Par contre, je fais pas du tout de prépa, mais quand même le stretching ça.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'en fais énormément parce que du coup, tout ce qui est courbature et souplesse, j'en ai besoin. Donc, je le fais naturellement parce que je sens que mon corps a envie d'en avoir.
Ah, ok, hyper intéressant. T'as une petite routine Quel type d'exercice tu vas faire?
Ben, c'est juste qu'en général, après la session, je sens déjà que mon corps est tout rigide parce que ben on a ramassé. Et je m'étire beaucoup, mine de rien, les cuisses et les fessiers, ça prend quand même parce que pareil, on saute, on atterrit.
Ouais.
Et les bras, évidemment, les épaules et le dos.
Ok, donc toi,
Voilà.
tu le fais direct après ta séance.
Alors, pas direct, direct, mais avant la bière. Non, mais
Ouais.
si, en général, je le fais après parce que sinon, je le fais pas, j'oublie. Mais ouais, quand je suis encore sur le spot, quoi. Si je rentre chez moi, c'est foutu, je le ferai pas.
Ok, d'accord. Et jusqu'à présent, t'as jamais eu de pépin physique?
Je retouche du bois encore. Pas des gros, en fait. J'ai eu des. Bon, si. La saison dernière, j'avais les deux chevilles avec de belles entorses. C'était une horreur. J'ai eu des petits problèmes d'épaule, mais rien comparé à ce que peuvent avoir mes amis. Et si, j'ai les ménisques qui ont un peu ramassé aussi, mais c'est pas des choses qui sont vraiment sérieuses, quoi. C'est des petits bobos et des brûlures, des petites coupures, des trucs comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui m'a empêché de pouvoir aider, quoi. Et
Ok.
vraiment, pour l'instant, j'ai de la chance, quoi. C'est une bonne
Ok.
épreuve.
Ouais, trop cool. Moi, je voulais te demander aussi un petit peu, est-ce que, tu vois, dans ton sport, tu te prépares un petit peu mentalement? Est-ce que tu visualises un peu ou tu essayes de préparer tes rides? Tu vois, comment, j'imagine, tu vois, d'ailleurs, tu vas m'expliquer comment ça se passe sur une compète. Est-ce que c'est un nouveau parc? Est-ce que vous avez le droit de le tester avant? Et comment est-ce que tu fais, toi, pour te préparer un peu psychologiquement à bien réussir ton ride.
Effectivement, les parcs sont préparés pour la compète la plupart du temps. Mais le parc, c'est aussi l'endroit où en fait les clients vont venir. Donc la plupart du temps, c'est vraiment réalisé la semaine avant ou la veille, ça arrive aussi. Par exemple, il y a un câble en Allemagne où la compétition, elle se passe le samedi uniquement parce que sinon, ils ont des clients le dimanche, le vendredi. Et le jeudi, pardon, parce que le vendredi, du coup, on a une journée où en fait, pendant la nuit, ils ont installé tout le setup pour s'entraîner, quoi. Donc la nuit du jeudi, ils installent tout. Le vendredi, on a les trainings. Le samedi, on a la compète. Et le dimanche, c'est terminé, quoi. Donc on a peu de temps sur ce genre de compète. Ou alors, par exemple, à Londres, on a en général une dizaine de jours. Et le setup apparaît petit à petit, quoi, avant de la compétition. Et du coup, ça se passe généralement, sur ce que je fais moi, hein, ça se passe généralement par section. Donc
OK.
tu vas avoir, par exemple, sur la première ligne, deux modules qui vont aller ensemble. Donc tu vas avoir la première section, ça va être le premier module, le deuxième. Ensuite, tu as fait les deux virages au fond, tu as la deuxième ligne, et tu vas avoir peut-être deux sections si la ligne est assez grande ou une si c'est plus court. Après, tu as encore un virage, tu as peut-être une section ici. Et le dernier truc, c'est le kicker. Donc en fait, tu vas avoir des pourcentages sur chaque section. Et en fonction du type de compétition, parce que tu as plein de formats différents, tu peux avoir du 1 contre 1, tu peux avoir des poules, etc. Et ben, tu as soit ceux qui vont remporter la zone ou ceux qui vont marquer le plus de points. Et du coup, c'est à toi d'être assez créatif, ben déjà pour avoir des tricks qui sont différents sur tous les modules, pour tourner dans les deux sens, pour avoir quelque chose de hyper polyvalent, de complet sur tout ce que tu sais faire, et ne pas le proposer dans les mêmes zones pour que du coup, en fait, tout ce que tu proposes soit consistant. Et après, tu vas pouvoir avoir ta note qui va faire une balance de tout ce que tu as proposé, quoi.
Ok, c'est des juges qui mettent la note?
Ouais, c'est ça.
Ok.
En général, chaque juge a une zone appropriée et voilà, ils font leur classement et ils mettent tout en commun à la fin et ça donne le classement général, quoi.
Ok.
Généralement, après, il y a toujours des formats un peu différents. Et du coup, ben, c'est vrai que quand on s'entraîne pour faire la compète, enfin moi en tout cas, je fais les sections une à une, j'essaie de trouver un peu mes tricks forts sur certains modules où je vois qu'il y en a un qui me fait vraiment galérer, du coup, j'essaie de trouver quelque chose de plus facile. Où je suis sûre de ne pas me mettre en danger pour pouvoir proposer mes trucs un peu plus forts sur d'autres modules. Et du coup, j'essaie d'équilibrer un peu mes sections. Et si je vois que, ben, au final, mon schéma me convient pas parce que je trouve que c'est pas assez consistant ou que c'est pas assez joli ou que je sens pas que j'ai le flow, je vais changer quelque chose et jusqu'à ce que je sois contente. Donc du coup, en fait, je construis un peu mon truc au fur et à mesure du temps que j'ai sur l'entraînement. Sur ce setup et puis je fais un peu mon petit train-train jusqu'à ce que ça me rende heureuse quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois tu prépares quelque chose et t'en es sûr et le jour de la compète, bah, tu fais une erreur, tu tombes dans l'eau et c'est terminé quoi. Donc c'est un peu
Ouais.
parfois ça peut être très difficile. Mais voilà, après en visualisation, pardon, je me suis rendu compte, je le savais pas vraiment, je n'avais pas trop confiance, mais je me suis rendu compte que avant d'aller à l'eau, ben, tout le temps, je me refaisais le truc dans ma tête, quoi. Je me mets un peu à l'écart, j'ai souvent la musique et je me refais un peu mon schéma et je me dis, OK, là, je fais ça, là, je fais ça, là, je fais ça. Ça s'enchaîne très vite, en fait. mine de rien, le module. Donc, si tu n'es pas sûr de ta réception de ton module, tu es sûr que le sud d'après, tu es en cacahuète. Quoi. Donc, il faut que ce soit sûr à 100%.
Ok, ça marche. Donc, ouais, tu t'es rendu compte que tu le faisais sans savoir que c'était vraiment de la visualisation. C'est marrant.
C'est le dire, du coup, ça m'a fait réaliser, mais...
Ok, mais c'est hyper intéressant. Et le jour de la compète, vous avez qu'un seul passage ou vous avez quand même le droit de faire plusieurs tours?
Alors, on a deux runs en général. Donc, tu fais ton premier run, tout le monde a le même, et ensuite un deuxième run. Et le meilleur des deux va compter. Donc, si jamais tu tombes au premier, par exemple, ça te met l'inverse de la confiance. Et du coup, le deuxième, tu essaies de le faire safe, ou alors tu balances tout, ça dépend un peu de ton état d'esprit. Mais en général, tu as deux chances, et puis il arrive qu'il y ait des repêches avant le deuxième tour, et du coup, là, tu aurais un seul run uniquement, et si tu tombes, ben, c'est terminé là. Mais après, tu peux repêcher grâce à ça et passer un deuxième tour. Quoi. Mais ouais, on a deux runs, mais disons que si tu tombes au premier, c'est comme si t'en avais qu'un.
Ouais,
t'as intérêt d'avoir assuré au premier. Quoi. Et si tu tombes pas, c'est vachement bien parce que du coup, tu fais un premier run où tu te la joues un peu safe pour avoir quelque chose à proposer. Quoi. Et puis être bien dans ta tête, tu vois, c'est important que quand tu finis ta compète, tu dis tiens, j'ai fait un run et je me suis bien amusé quand même. Et si tu as fait ce run où tu t'es bien amusé et que tu upgrades le suivant, c'est vraiment cool parce que c'est là où tu te lâches et que tu te fais plaisir parce que tu sais que tu as une base un peu saine au premier et au deuxième, tu vas te lâcher et tu vas vraiment t'amuser. Quoi. Et ça, c'est cool.
Okay.
Ça n'arrive pas toujours.
Non, mais c'est marrant. Je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Et c'est hyper intéressant le fait de construire sa confiance en plusieurs runs. Je trouve que c'est assez propre à ton sport finalement, c'est assez unique et je trouve ça plutôt cool. Mais d'ailleurs, je voulais te poser une question un peu par rapport à la, effectivement, peut-être par rapport, je sais pas si c'est par rapport à la frustration, mais tu vois, moi j'ai l'impression que tu vois sur ce genre de sport, on a été parlé un petit peu de patin à glace au début, de patinage artistique, tu sais, de l'impression d'avoir fait un super bon avoir fait un super bon passage, être vraiment parfait. Et en fait, tant qu'il est pas terminé, tu vois, tu peux te gameler à la dernière seconde, à la dernière réception, et ça annule tout le reste, tu vois. Oui. Et du coup, tu vois, ma question c'est de savoir est-ce que, enfin, tu vois, c'est comment est-ce qu'on deal avec cette frustration là, et comment est-ce que tu fais toi pour rester concentré jusqu'au bout, parce que peut-être que tu peux envoyer tout dans les premières secondes et finalement te relâcher à la fin, quoi.
Eh ben écoute, je sais pas du tout comment on deal avec ce genre de frustration, tu m'en diras plus. Non, en fait, la chance que j'ai, c'est que je suis pas quelqu'un je suis pas vraiment compétitive, j'ai jamais vraiment envie de gagner quand je vais sur un event. Mais ce que j'aime vraiment, c'est avoir du plaisir à rider. Donc en fait, si je m'amuse sur l'eau, ben c'est pas grave quoi, si je tombe, si je tombe pas, si j'ai passé un bon moment, je suis contente. Si mon run vaut la peine et il va plus loin dans la compète, ben écoute, c'est du bonus, je suis super contente. Si jamais j'ai fait mon run et que je passe pas, et ben écoute, c'est que je ne vais pas passer et puis c'est que l'autre a mieux ridé et c'est super quoi. Mais ça arrive parfois aussi que tu fasses pas ce que tu veux et que tu passes pas alors que tu pensais que tu allais y arriver, ou tu vois, il y a plein de situations où en fait tu te retrouves avec un petit coup dur derrière quoi. C'est pas super agréable. Mais en général, moi, je le prends bien parce que ben, je sais très bien que si jamais j'ai pas réussi, c'est que ben, j'ai raté quelque chose. Donc voilà, c'est pas gros, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui préparent des compétitions pendant des années, des mois, et quand t'as un échec ou quelque chose, c'est très très dur. Mais moi, ça va, je le vis bien. C'est pas important. Genre, je vais pas m'arrêter sur ça. Il y a juste eu une fois où je l'ai eu un peu dur, mais c'était pas parce que j'avais pas gagné ou pas parce que j'avais pas passé le round ou quoi. J'avais eu une mauvaise journée, c'était une journée horrible. J'avais la compète dans l'après-midi, du coup j'avais fait mon premier run et j'étais en colère. Et j'avais pas aimé, mais bon, j'ai fait ce que j'avais pu et voilà. Du coup, j'ai pris ma deuxième corde pour le deuxième run. Et là, je sais pas, je pense que j'étais un peu relâchée aussi de tout ça. Et là, j'ai eu un flow, je me suis régalée. J'ai fait tous les modules comme j'avais envie, comme j'avais prévu. Et puis je sentais que j'avais une bonne vibe et que ça se passait trop trop bien. Mais je l'ai réalisé à un moment, en fait. Donc, du coup, j'étais dans mon truc, j'étais concentrée. Et puis, à un moment, j'étais là, mais waouh, en fait, je suis en train de me régaler, là, c'est trop bien. Et je me suis un peu relâchée, tu vois, dans ma concentration. Et je me suis pris une tatane. comme jamais. Et j'étais écœurée parce que j'étais en train de m'amuser trop bien et j'avais envie d'aller jusqu'au dernier module. Et en fait, c'était juste avant le dernier. Et du coup, je me suis retrouvée sous l'eau et j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quel dommage, quel gaspillage. Parce que même si mon run, il n'allait pas passer au final, tu vois, c'était pas vraiment l'idée, quoi. Mais c'est que j'étais frustrée de ne pas avoir pu finir mon run parce que je l'aimais trop, quoi. Mais bon, voilà. Après, c'est la compète, hein. Si t'es pas capable d'accepter la défaite, ben c'est difficile, quoi.
Ouais, mais c'est marrant parce que tu as mentionné un petit peu le fait que, enfin, tu t'es dit ouais, quel gâchis. Est-ce que ça t'arrive souvent de te filmer et de re-regarder après coup comment tu évolues pour essayer de progresser?
Alors oui et non, parce que finalement je suis pas quelqu'un qui cherche à me faire filmer parce que tu peux pas te mettre seul en vrai, c'est compliqué. Mais ouais. Bah, du fait qu'on n'est pas beaucoup de nanas, qu'il y en a qui se démarquent plus que d'autres et tout, j'ai beaucoup de chance, beaucoup de gens me proposent de me filmer. Et du coup, je me vois, oui, effectivement. Et parfois, ça fait plaisir et parfois pas trop, quoi. Mais quand tu te vois et que ça te fait pas plaisir, c'est sûr que t'as plein d'outils pour évoluer, quoi. Parce que tu te dis, ok, là j'ai fait ça, j'aime pas trop, mais je peux l'améliorer, etc. Et plus précisément pour les tricks que tu apprends ou les gens qui débutent ou quoi. Comme je te disais tout à l'heure au tout début, que t'as pas le temps d'analyser tout ce qui se passe parce que c'est hyper rapide. Si tu as une vidéo de toi en train de faire un mouvement, tu vois comment la planche elle réagit, ton corps elle réagit, l'eau, comment ça se passe, la corde, qu'est-ce qu'elle fait. Et en fait, en voyant tout en image, si tu fais des ralentis un peu ou tu mets des pauses au bon moment, bah, tu vas te rendre compte de tes erreurs ou bien de ce que tu peux améliorer. Et ça, c'est trop, trop cool.
Ouais.
C'est vrai que j'ai l'habitude de... Ça m'arrive souvent d'aider des copines qui commencent ou de faire beaucoup de... Pas du coaching, mais de les aiguiller un peu, tu vois, de les épauler. Et les vidéos, franchement, c'est trop bien, quoi. Qu'elles se rendent compte de ce qui se passe et de ce qu'elles ont fait comme erreur. Et un petit geste qui peut changer, les aider à évoluer, quoi. Donc, ouais, c'est trop, trop bien.
Ouais, bah, je trouve, quel que soit ton niveau, effectivement, c'est un outil qui est hyper puissant. Et notamment, je trouve, sur les sports où tu as besoin d'avoir conscience un peu de ton élément. Et ça fait vraiment du bien de se regarder. Moi, je sais que j'ai appris à nager en me filmant. Et ça me permettait de voir, je savais déjà nager, hein, mais dire que j'ai appris à nager vraiment. et ça permet vraiment de voir ce que tu fais bien, mal. C'est un outil extrêmement puissant.
Vraiment trop, trop bien. Mais surtout que tu peux, en wake en tout cas, et dans plein de sports de ride, en fait, c'est que t'as l'aspect qui est sur, la performance, ok, je vais améliorer ça, etc. Mais on a aussi énormément de vidéos, de films, d'édits où les riders ils proposent des projets qui ont été filmés sur plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, peu importe, et qui sont inspirants à fond parce que c'est des super vidéos et t'as une ambiance que tu te dis mais ce sport il est malade et j'ai trop envie d'en faire, quoi. Donc la vidéo chez nous c'est hyper puissant. Enfin, la plupart du temps c'est bête, mais si tu regardes mon Instagram tu vas avoir que des riders qui font des vidéos et qui mettent des petits clips de temps à autre et t'es là waouh, ouais, ça c'est cool.
Ouais, mais grave. Mais moi, c'est ce que j'avais adoré, tu vois, regarder un petit peu toutes tes vidéos, voir tout le contenu que tu crées. Et c'est sûr que c'est vachement photogénique et filmogénique. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est hyper agréable à regarder, quoi. Et du coup, c'est quelque chose que tu as envie de bosser un petit peu pour plus tard, peut-être la création de contenu et la création de vidéos.
Oui et non, parce que je pense que j'aime bien filmer les autres, me filmer moi c'est pas trop mon délire, mais si on me propose de le faire je suis contente, mais c'est surtout les projets que ça peut amener derrière, tu vois, là on était en train d'organiser quelque chose avant l'histoire du coronavirus avec deux amis pour faire un winch trip par exemple. Je sais pas si ça te parle, c'est un winch, c'est ce qu'on appelle un treuil en anglais bêtement. Et au lieu d'être sur un câble, en fait tu vas dans des digues, tout ce qui va être dans la nature, en fait, un peu caché, des lacs, ouais. Béton, quelque chose que, ou avec de l'eau à côté, bien sûr, ou pas, hein, ça dépend qui ride. Et du coup, c'est là tout l'aspect du projet vidéo où, en fait, tu vas faire en sorte de créer quelque chose de différent, où tu as envie de participer au filming parce que forcément, on n'aurait été que trois et on aurait un peu organisé ça comme ça. Bon, là, pour l'instant, il n'y a plus de projet, on verra plus tard pour l'année prochaine, peut-être. Mais voilà, il y a toute une dimension où en fait t'as envie que ce que tu fais comme sport tu le mettes en image pour montrer ce que tu peux faire avec, quoi. Et les gens ont pas encore conscience de tout ce qu'on peut faire avec le wake puisque t'es encore peu connu, quoi. Et c'est un peu peut-être comme le snow, si tu compares, où tu vas avoir des vidéos sur un snowpark tout simplement, Ou alors les parts de street, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais.
Ouais, voilà, c'est
mais,
ça.
Mais c'est non, mais c'est sûr qu'il y a, tu vois, il y a une dimension avec le côté artistique qui est vachement importante, tu vois, et qui se retrouve pas dans d'autres sports. Et c'est, je trouve, c'est vachement intéressant aussi de voir que certains sportifs de haut niveau aujourd'hui ont complètement intégré, tu vois, la filmographie, l'image dans leur pratique, tu vois. Je pense, tu vois, avec l'apparition des caméras embarquées au nom très connu, et tu vois, ces mini caméras là qui rendent vraiment la création de contenu hyper facile.
On s'en sert beaucoup parce que c'est waterproof et que du coup.
Ouais, en plus.
Pour nous.
Ouais.
Mais ouais. Après, c'est un vrai métier, hein, parce que tu peux avoir des vidéos où en fait le mec c'est vraiment quelqu'un qui travaille dans le média et qui sait filmer, qui trouve les angles, qui a la bonne lumière, qui a le bon editing derrière et qui sort des vidéos de malade. Et si t'as un excellent rider, c'est génial. Mais parfois, même avec un rider de niveau normal, bah en fait tu retrouves des vidéos qui sont extra parce que la combinaison des deux, ça donne quelque chose de génial, quoi.
Ouais, donc, ouais, exactement. Ça dépend aussi de la qualité du cadreur. Ouais, c'est clair. C'est clair, trop cool. Écoute, l'interview arrive un peu à la fin. À la fin, j'ai l'habitude de poser des questions que j'appelle les petites questions un peu du tac au tac, ou un peu les questions un peu rigolotes. Tu peux y répondre du tac au tac, mais on peut aussi prendre le temps d'y répondre et rebondir dessus. Ça te dit de te prêter au jeu? Allez, génial. La première, c'est de savoir, c'est quoi une bonne journée pour toi?
Simple. Pas prise de tête, je me lève, je suis chez moi, j'ai envie d'aller rider et hop, voilà, j'y vais, je reviens. C'est bien, ça me va comme ça.
Ok, il faut qu'il y ait du ride dans la journée, quoi.
Ouais, généralement, oui, parce que là, par exemple, les 41 jours sans ride, je les sens, tu vois.
on sent qu'il y a une lionne en cage qui a envie de sortir et de retrouver, de retrouver les temps.
Patiente, mais voilà.
Ouais, c'est quoi le meilleur souvenir de ta carrière?
Je pense que de loin, c'est bête parce que c'est en rapport avec une compète, mais j'ai tellement de souvenirs qui sont pas de compète, mais celui-là il était vraiment fort. C'est l'année passée, on a fait l'édition du Plastic Playground à Londres, et c'est, je pense, une compète qui est hyper reconnue dans le milieu, et en fait avec les meilleures rideuses de toute la planète, pareil chez les mecs. Et je me suis retrouvée sur la première marche du podium, et c'était hyper fort parce qu'en fait il y a une nana qui est imbattable dans le circuit des nanas en WEC. Elle est imbattable, elle sait déjà tout faire, elle a tout gagné, elle est très très forte dans toutes les disciplines, et en fait je l'ai battue, et je pense que tout le monde s'attend à ce qu'elle soit imbattable. Donc quand quelqu'un là-bas, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, ça crée un truc de malade.
Ok, ouais.
Au moment où, en fait, le mec au micro a parlé de l'annonce des prix, quoi. Il a fait un peu de suspense, mais les gens ont tout de suite compris que la deuxième, c'était justement cette Allemande. Et tout le monde, il y a eu un cri dans la salle, mais c'était dehors, mais sur le parc, là, c'était malade. Et enfin, je pense que à chaque fois que j'en reparle, j'ai des paillettes dans les yeux parce que ça fait vibrer, quoi. Donc, je suis montée sur le podium, j'ai mes copines qui filmaient alors qu'elles étaient sur le podium. C'était assez marrant. Mais j'ai crié comme jamais j'ai crié, je savais même pas que je pouvais crier aussi fort. et c'était vraiment un bon moment, quoi. Donc, je crois que ça, il restera longtemps. Juste du fait comment c'était organisé, du fait d'être montée sur cette marche, alors que c'était, pour moi, c'est la compète la plus prestigieuse qu'il y a, une des compètes les plus prestigieuses qu'on a dans le WEC. Donc, le meilleur moment, je pense que c'était celui-là.
Ok, trop cool. Mais en fait, vous découvrez le résultat au moment de l'annonce du podium, c'est ça?
Oui. Il y a certains gens qui regardent en te disant peut-être je sais déjà ce qui t'arrive, mais en général, ils disent rien du tout parce que la surprise, c'est le mieux, quoi.
Ok, d'accord. Ok, donc c'est pas comme les sports un peu plus. Non. Les sports où ils mettent des notes, tu le sais tout de suite après ton run.
En fédé, il me semble que par contre, t'as les résultats qui apparaissent directement sur les écrans.
Ok, d'accord, ouais. Donc là, ça change un peu, effectivement, l'effet de surprise.
Oui, du coup, c'est malheureux.
Ok, trop cool. Et attends, juste par curiosité, c'est qui cette Allemande que j'aille voir un peu son contenu?
Elle s'appelle Julia Rick.
Julia Rick, ok, ça marche. Eh bien, tu as battu Julia Rick, félicitations. je regarderai. Et cette compète, elle a eu lieu quand? Comme ça, je vais retrouver un peu les liens.
Toujours la semaine du 14 juillet à Londres, l'été.
Ok.
Ça s'appelle le Plastic Playground. Et bah, tout à l'heure, tu parlais de ça, justement, là où j'ai perdu le fil et que tu demandais s'il y avait un circuit de Coupe du Monde, etc. On n'a pas ça dans le WEC, mais on a par exemple le Plastic qui a lieu chaque année, ou alors Langenfeld Open qui a lieu chaque année. C'est un peu ce qui nous, organise la saison. Et le Plastic a eu une année trois étapes. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure et que j'ai perdu le fil.
D'accord. Ok, d'accord. Je vois mieux. Ouais, c'est des petites ligues privées avec plusieurs courses, enfin plusieurs compétitions à l'intérieur. Ok. Trop cool. Trop cool. Est-ce que tu as un gris-gris pour faire baisser la pression?
Je crois pas.
Pas une chanson, peut-être?
En fait, non. Je pense que quand on est vraiment. Parce qu'on n'est jamais tout seul sur les compètes. Parce qu'on, par exemple, à Londres, tu vois, on loge sur le camping. Donc, on est avec nos tantes pendant 10 jours et on est ensemble. Quoi. Donc, je pense que ce qui nous aide beaucoup, c'est d'aller boire un verre, de discuter. Comme tu disais tout à l'heure, voilà, c'est vrai que l'alcool et les fêtes sont assez présents dans nos petits quotidiens. Donc, ouais, c'est ça. Après, le jour de la compète, non.
Ouais, bien sûr.
Tranquille.
Ok. Ok, d'accord. Ok, trop marrant. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ta playlist?
De tout.
Allez, dis-moi.
Bêtement, en ce moment, j'ai une de mes amies qui compose beaucoup à la guitare et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, elle me l'a envoyé par mail. J'ai mis sur mon iPod, tu vois. Oui, parce que j'ai vraiment te le montrer, mais j'ai un iPod. Je crois que c'est ce que c'est aujourd'hui, mais j'ai un vieux iPod dans lequel j'entasse des musiques depuis peut-être 10 ans. Et du coup, j'ai souvent ça dans les oreilles. Et par exemple, au Plastic de l'année dernière, j'avais un son de Broken Bells. Ça s'appelle The Ghost Inside. Et je pense qu'elle m'a mis bien dans le mood pour aller rider. Cette musique, elle était top.
Ok. Ouais,
je pense que celle-là, trop elle cool. m'a bien aidé ce jour-là. Je sais pas pourquoi, tu vois. Elle m'a mis dans ma zone.
Ok. Bah écoute, si tu aimes bien les compositions un peu de guitare, moi en ce moment j'écoute beaucoup Rodrigo et Gabriella. Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais c'est un couple d'Argentins qui sont venus en Irlande et ils se sont fait découvrir. Ils jouaient dans des bars et en fait il y a pas de voix, il y a rien d'eux. Ils sont juste deux avec une guitare et ils jouent incroyablement bien. Ils tapent dessus, ils font vibrer les cordes dans tous les sens. Et j'adore. Et en fait ils jouaient. Je crois qu'ils bossaient dans un bar et puis ils jouaient de temps en temps et ils se sont fait repérer par un producteur qui leur a dit mais ce que vous faites c'est incroyable, faites un album. Et ils ont fait un album et depuis ils ont une carrière assez extraordinaire. Ils ont fait les Solid Days à Paris. Ils ont fait pas mal de grands festivals en France et tout. Si tu aimes bien la guitare acoustique, je te recommande Rodrigo et Gabriella chaudement.
Ok, écoute, j'irai voir à local, merci.
Ok, et pour la petite histoire, vas-y.
Dans ma playlist, en fait, j'ai beaucoup de sons que personne ne connaît, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et beaucoup de musique, en fait, que j'ai récupéré de vidéos de Wake ou de Snow ou de ce que tu veux qui m'ont fait trop plaisir à écouter. Donc, en fait, j'ai les sons de mes vidéos préférées.
Ok, trop trop cool. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'ont inspiré dernièrement?
Alors sur cette question-là, j'ai eu un peu de mal aussi, tu vois, c'est comme la première. J'ai réfléchi beaucoup, je lis pas énormément, je vais pas te le cacher, et je regarde peu de films non plus parce que je suis jamais vraiment chez moi à Calais. Et je regarde des films dans l'avion, et le dernier film que j'ai vu dans l'avion, c'était Sur le chemin pour aller en Amérique l'année dernière. Et je pense que Mathilde te l'a dit, c'est Free Solo. C'est un film d'escalade.
Ok.
Et je l'avais adoré. Il était vraiment génial. Et il y a un petit moment dans ce film où j'avais eu un petit recul, tu vois, et j'avais regardé l'écran en me disant « Waouh !» Donc, le mec, en fait, se fait une paroi d'escalade sans assurage, sans rien. Et c'est au Yosemite, en Amérique, un truc hyper connu pour les grimpeurs.
Ouais.
Et il y va sans assurage, sans rien. Et à un moment donné, dans la vidéo, il te dit « Pour moi, ça n'a jamais paru d'être risqué, en fait. Je me suis toujours sentie... en confiance. » Et tu vois, le mec, il est sur un mur de je sais pas combien de mètres de haut, j'ai pas les données, mais là, mais en fait, il se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Et c'est vrai que parfois, en wake, c'est pas du tout la même échelle, attention. mais tu sais, enfin, genre, moi, je vais me jeter sur un setup où je me dis, franchement, je me sens hyper confiante et j'y vais sans réfléchir. Mais si tu mets le moi d'il y a 5 ans, et peut-être je vais réfléchir à 2 fois, quoi.
Ouais, mais c'est un peu le flow, quoi, l'esprit de confiance où tu te sens bien et tu peux tenter n'importe quoi et tout passe, quoi.
C'est ça. Et je pense que ouais, ce film-là, pour ça, ça m'avait impressionnée.
Mais ouais, Free Solo, super bonne recommandation. Et sache que tu n'es pas la seule à regarder des films dans l'avion. Moi aussi, je regarde très peu de films en dehors. Je lis beaucoup et je sais que quand je prends l'avion, je peux me faire. J'arrive et je mets tout de suite l'écran et je me fais mon plein de films pour l'année, quoi.
En général, j'arrive à choisir celui qui va me faire pleurer, même sans connaître le nom ou quoi. Je clique un peu au pif parfois et à chaque fois, je choisis un film dans l'avion. Et je regarde les gens autour de moi, ils me disent pas, elle est folle, celle-là, elle pleure tout le temps. Juste devant les filles dans l'avion, c'est tout. Après le restant, non.
Ok, trop cool. La question suivante, je l'aime bien, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé à pratiquer à haut niveau?
Ouais, j'aurais beaucoup aimé faire du snow. Parce que là, j'en ai fait beaucoup cet hiver. Pareil, beaucoup de parcs, j'ai pas eu l'occasion de sauter, et puis je savais que j'avais des voyages après à assurer, donc je me suis pas mis en danger non plus. Mais le parc en snow, j'ai beaucoup, beaucoup accroché là cet hiver. Depuis longtemps, mais cet hiver, j'ai eu vraiment du temps pour en faire, donc j'allais rider tous les jours pendant presque un mois.
Ok.
Et, j'ai adoré, donc ouais, pourquoi pas.
Il y a beaucoup de connexions entre les deux sports, on pourrait, enfin tu vois. Un non-initié comme moi pourrait dire oui, mais peut-être que toi, est-ce que ça te chamboule pas trop dans ta pratique du WEC?
Alors, il y a beaucoup de points communs, il y a énormément de différences aussi, mais on est quand même sur un sport de board avec des modules, du parc uniquement, hein, après le reste c'est autre chose, mais vraiment sur ça, ouais. Tu peux retrouver les mêmes tricks, les façons, les approches sur les modules, etc. Les seules choses qui vont être différentes, c'est que nous, en WEC, on est tracté par une corde, donc t'as une vitesse qui est constante tout le temps, et t'as surtout un appui avec ta main qui va diriger ton corps, en fait. Tu t'en rends pas compte, mais la première fois que tu mets les pieds sur un snow, tu comprends tout de suite qu'en fait, en snow, t'as beaucoup de contrôle des épaules, t'as beaucoup de précision par rapport à la vitesse que tu vas donner, à ce que tu veux faire, etc. Et c'est des choses que nous, en wake, on n'a pas du tout conscience, puisqu'on a la corde pour nous aider et la vitesse, elle est constante tout du long, quoi. Et c'est des choses que j'ai appris cet hiver. et par contre, en termes de tricks, je peux pas faire un tiers de ce que je sais faire en wake sur mon snow, quoi. C'est tellement dur. C'est tellement frustrant, mais à la fois, c'est tellement bien parce que du coup, tu joues à retrouver ce que tu sais faire, mais avec un autre environnement, quoi.
Ouais, ok, je vois. Et c'est pas un peu frustrant, peut-être, de rentrer des superbes figures en wake et de pas forcément y arriver en snow?
Si, mais alors, d'un côté, oui, parce que tu te dis, ah là, j'ai juste fait genre 180, alors qu'en wake, je peux faire 450, un truc comme ça, tu vois. Là, c'est horrible. Mais en fait, ça t'apprend aussi beaucoup de contrôle de ton corps et de ce que tu veux vraiment, faire. Parce que finalement, ben, peut-être que tu vas tourner moins, mais tu vas y mettre plus de style et peut-être que tu vas avoir une autre approche sur ce module que t'aurais eu en wake totalement différente. Fait que du coup, tu trouves un peu ton compte entre les deux et, j'ai bien aimé, moi. Puis après, je suis retournée sur mon wake et pareil, j'avais d'autres trucs un peu en tête en disant « Oh putain, ça, je peux le faire sur mon snow, j'arrive pas à le faire en wake, c'est un peu frustrant. » La corde, finalement, elle me gêne aujourd'hui alors que la semaine dernière, elle me gênait pas.
Ouais.
Voilà.
Trop marrant. Tu te vois où dans 10 ans?
C'est la question qu'on peut pas me poser. J'en ai pas la moindre idée. Je sais pas. J'en sais rien. Parce que finalement, tu vois, si on fait l'inverse, c'est il y a 10 ans, et j'avais même pas encore commencé à faire du wake, tu vois. Donc, je sais pas dans 10 ans où est-ce que je serai, quoi. J'en ai pas la moindre. Okay. Je suis désolée.
Mais on verra. Rendez-vous dans 10 ans.
Même dans 2 jours, je sais pas.
Ouais.
Enfin, si, là pour le coup, oui. Mais.
Il y a encore des choses qui te font peur?
Oui. Beaucoup.
Qu'est-ce qui te fait peur, Marie?
Alors. Ok. Il y a une conversation qui revient souvent avec mes proches, ceux qui me connaissent vraiment bien, c'est que voilà, j'ai accompli plein de trucs dans le WEC, je sais pas comment ça s'est passé, voilà, je me retrouve à la place où je suis aujourd'hui, c'est trop cool, mais je suis incapable, et je suis désolée de mettre la tête à l'envers.
C'est vrai?
Oui, donc du coup, ben, souvent les gens qui commencent le WEC et tout, ils vont aller sur un kicker, ils vont être là, ouais, moi je vais faire un backflip parce que c'est super facile, et ils ont raison, et ils peuvent le faire tout de suite, et même quelqu'un qui a commencé il y a pas longtemps, il sera capable de le faire. Et moi, je peux pas, quoi. Et ça me fait peur. Et je sais pas pourquoi, mais pour l'instant, j'ai pas réussi à. C'est pas que je suis paralysée ou quoi, c'est juste que comme je sais pas le faire et que j'ai aucun contrôle de ce qui se passe, j'y arrive pas, quoi. Je suis perdue, j'y arrive pas. Donc, c'est passé du côté de peur parce que je sais pas trop, ça me tente pas, quoi. Donc voilà, c'est ça.
Ben, je peux te présenter à quelques gymnastes qui pourront avec plaisir te donner des cours de. Des cours de flip, tu vois.
Et qui sont très patients.
Ouais, bah écoute, ouais, carrément. Écoute, on en reparle. Est-ce que tu te souviens d'un échec qui t'a marqué plus que les autres et qui t'a appris plus que les autres?
Marqué, oui. Celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu vois, où je disais que j'étais en train de vivre un bon moment et que ben, d'être tombée comme ça sur. C'était la même compète dont je t'ai parlé tout à l'heure, le plastique, donc c'était la
Ouais.
troisième étape cette année-là. Et j'avais bien gazé à Londres en été, et là on était à Bali. On avait passé un super moment et juste de m'être fait couper l'arbre sous le pied par une erreur, tu vois, c'était hyper frustrant. Mais je pense que c'est pas. J'ai pas eu besoin d'en tirer de leçon parce que je sais très bien comment je fonctionne avec ça, c'est que. Ben, en fin de compte, j'ai eu un bon moment sur l'eau et c'est ok quoi. Et ça ira mieux la prochaine fois, tu vois, il n'y a pas de rancœur là-dessus. J'ai pas trop d'autres. Je pense que de manière générale, ça se passe comme ça, tu vois, il n'y a pas de mauvaise session sur l'eau. Même si je m'amuse pas et que je m'énerve et qu'il y a quelque chose qui se passe pas et que ça me rend folle. Mais en fait, c'est toujours bénéfique. Donc peut-être voir juste voir le bon côté des choses à peu près tout le temps, quoi. Je pense que c'est peut-être ce
Ouais.
que je peux en tirer d'un peu toutes les sessions où je suis sortie de l'eau en me disant j'arrête le wake, ça me saoule. Ouais.
Ok, trop cool. Tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Là aussi, j'ai beaucoup réfléchi. Ben, tu sais quoi?
Il y en a plein, il y en a peut-être plein.
Alors, il y a bêtement, les gens qui ont essayé de me donner des conseils ont souvent dit la même chose en me disant reste toi-même. Et je crois que c'est bien parce que toutes les fois où je suis moi-même, ben, tout se passe très très bien finalement. Après, je crois pas essayer d'être une autre personne finalement, mais voilà. Mais je suis d'accord avec ça et je pense que ben si t'arrives à être toi-même et à être bien dans tes pompes, ben finalement les choses se passent naturellement quoi. Et il y a aussi, tu sais, vu que tu poses cette question chaque fois, j'ai gardé en tête celui de Fanny qui a dit « Célèbre tes réussites ». Et ça, j'ai trouvé que c'était trop cool parce que c'est bien. Mais célèbre tes défaites aussi, hein, parce que c'est fun aussi.
Non mais c'est vrai que c'est un truc que je constate un peu parmi les sportifs de haut niveau, la victoire ou en tout cas la réussite, tu vois, ça devient tellement quelque chose d'obsessionnel, tu vois, quelque chose auquel tu penses tout le temps, que bah, il y a effectivement il y a une perte un peu de saveur quand tu réussis des petits paliers, tu vois, et qui sont pas forcément récompensés d'une médaille d'or ou quoi, mais qui peuvent être des réussites à l'entraînement ou psychologiquement ou tu vois.
Ouais,
Et
carrément.
c'est vrai que c'était un très très bon conseil,
Et j'ai
effectivement.
bien. Après, nous, on a beaucoup tendance à célébrer dans notre petit sport. Quand on finit une compète, il y a toujours la fin partie et on est souvent jusqu'au bout de la nuit en train de célébrer finalement. Et que t'es gagné ou que t'es perdu, ça fait toujours du bien quoi d'être ensemble et de profiter du dernier moment de la compète quoi. Donc ouais, on aime bien célébrer dans le wake.
Ok. Bah en tout cas, ça donne envie de se joindre à vous et d'aller voir une compète quoi.
Avec plaisir quand tu veux.
Eh ben écoute, on va en reparler
Et on fera
avec plaisir pour boire une petite bière.
une compète. Ah
Allez, elle
ben,
est
c'est
trop bien, trop trop cool. Bah écoute, la dernière question à chaque fois que je pose, c'est de savoir quel est le prochain sportif ou la prochaine sportive que tu me recommandes d'aller interviewer.
alors, j'ai eu plusieurs idées. Bêtement, j'ai rencontré au tout début de mes pas en wakeboard où ça commençait à être intéressant, Marion Hertier. Et une snowboardeuse française aussi, qui a commencé sa carrière en slope et qui est maintenant championne du monde maintes reprises de free ride en fait, avec le free ride World Tour. Et du coup, je pense qu'elle a un parcours exceptionnel. Puis je connais la nana, donc je sais qu'elle peut être hyper intéressante, elle est passionnante de ce qu'elle fait. Et puis après, je me suis dit aussi que notre petit sport n'était pas très connu, mais il est encore moins connu, c'est bête, hein. Mais on fait du wakeboard, mais il existe une discipline qui s'appelle le wakeskate. Je ne sais pas si ça te parle.
C'est les pieds sont pas attachés, c'est ça?
Exactement. Donc en fait, on fait la même chose. On est tracté par le câble ou bien par winch, ce que tu veux. Mais au lieu d'avoir les pieds sur une board comme un snow, t'as les pieds sur une board comme un skate, skateboard. Et du coup, ces mecs-là ont une patience et enfin moi, je suis admirative de ces gars-là. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours marqué. Les gens avec qui j'ai commencé le wake, c'était des wake-skateurs. Et je pense qu'ils sont hyper intéressants. Et en France, on a la chance d'avoir Max Giry. Bon, en fait, il est suisse, mais peu importe. Il parle français aussi. Et je pense qu'il peut être hyper intéressant parce qu'on est aussi sur une pratique ben, de ride et qu'on est sur un sport qui est pas très connu. Et je pense que Max a une belle histoire parce que il a fait vraiment un chemin hyper riche, quoi.
Ok, eh ben écoute, je le connaissais pas du tout, donc c'est noté. C'est noté tout de suite. Pour la petite histoire, je suis en contact avec Marion, donc ça devrait se faire. Ouais, ça devrait se faire bientôt. J'ai hâte aussi. Effectivement, avec le confinement, les agendas ont un peu décalé, mais on devrait se voir bientôt. Donc c'est cool. En tout cas, super recommandation pour Max. Écoute, c'est vrai que le wake skate, je vois ce que c'est, mais j'ai bien envie de me plonger un peu dans cet univers-là. Donc ça peut être super cool.
C'est un sport franchement qui me bluffe, moi. C'est trop bien.
Bon, bah écoute, ouais. Et ben écoute, je vais le contacter de ta part. Merci beaucoup Marie, c'était vraiment super cool. Moi, j'ai passé un super moment. J'encourage vraiment les auditeurs à te suivre sur Instagram parce que tes vidéos, elles sont juste magiques, quoi. Enfin, à chaque fois, c'est t'en fais pas toujours, mais en tout cas, peut-être que c'est la période aussi qui fait ça. Mais moi, j'ai pris un plaisir à faire tout ton feed et à regarder tout ce que t'avais publié. Et je trouve que c'est vraiment vraiment stylé, quoi. Donc vraiment, j'invite les auditeurs à faire de même et à te suivre sur Insta. Et puis sinon, bah je te dis à très bientôt.
Bah merci beaucoup, ça me fait super plaisir en tout cas. Trop sympa.
Salut Marie.
Salut, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.